tour. Guillaume Nodin.
Bonjour ou bonsoir à toutes et à tous et bienvenue dans le débat du jour. C'est le premier déplacement à l'étranger de haut représentant de l'administration Biden et il est pour le Japon et la Corée du Sud. Le secrétaire d'État Anthony Blinken et le ministre de la Défense Lloyd Austin vont réaffirmer leur soutien aux alliés traditionnels des États-Unis dans la région, des alliés parfois déroutés par le style de la diplomatie personnelle de Donald Trump, marqué aussi par la guerre commerciale avec la Chine. C'est donc aussi un message pour la grande puissance régionale et qui ne masque pas ses ambitions mondiales. La Chine est considérée comme un rival stratégique par Joe Biden. À quoi va ressembler le prochain round Chine-États-Unis ? C'est la question du jour.
RFI.
Et pour en parler, trois invités sont avec nous aujourd'hui dans ce studio. Nous sommes avec Laurence Nardon, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes responsable du programme États-Unis de l'Institut français des relations internationales, l'IFRI, et vous animez le podcast New Deal, qui s'appelait avant Trump 2020, et c'est demain le 70e épisode, précisément sur le sujet qui nous occupe aujourd'hui. Nous sommes en ligne avec Pierre Grosser, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes historien, spécialiste des relations internationales, professeur et chercheur à Sciences Po, auteur du livre « L'histoire du monde se fait en Asie, une autre vision du XXe siècle ». C'est aux éditions Odile Jacob. Et également avec Antoine Bondaz, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes chercheur à la Fondation pour la recherche stratégique et enseignant à Sciences Po. Laurence Nardon, on va commencer avec vous. Avec ce voyage d'Anthony Blinken et de Lloyd Austin, les États-Unis veulent faire passer quel message ?
Eh ben, ils veulent faire passer à la Chine le message que, avec l'administration Biden, le multilatéralisme est de retour. Biden l'a dit, il veut gérer la Chine avec deux piliers qui sont, un, les valeurs, donc on parle des droits de l'homme, etc., et deux, les alliés. Et les alliés, c'est principalement ceux de la région autour de la Chine, cette région qui est très à la mode aujourd'hui, le concept est très à la mode aujourd'hui, c'est l'Indo-Pacifique. Et donc il s'agit de discuter et de se mettre d'accord avec les alliés autour de la Chine pour lui montrer que ça ne va plus être bilatéral.
Oui. Pierre Grosser, on savait que la zone Indo-Pacifique prenait de plus en plus d'importance, ça vient d'être rappelé, et depuis plusieurs années pour les États-Unis, ça remonte déjà à Bill Clinton. C'est donc une confirmation, l'Asie et cette zone-là, c'est une priorité absolue pour les États-Unis.
Dans un article récent, Blinken et le secrétaire à la Défense Austin ont dit que c'était le centre de la géopolitique mondiale. Avec ça, les choses sont assez claires. Alors, on a l'impression que c'est d'une certaine façon pas très très nouveau, parce que déjà dans les années 80, on parlait de Pacifique, nouveau centre du monde. Mais c'était un horizon. Maintenant, c'est une réalité. Donc, le président Biden a d'abord téléphoné à ses alliés européens, une fois qu'il a été au pouvoir, mais on voit que les premières préoccupations sont d'abord des préoccupations asiatiques.
Antoine Bondaz, comment la Chine reçoit ces messages qui étaient évoqués par Laurence Nardon et comment est-ce qu'elle compte y répondre ?
Alors, c'est évidemment une mauvaise nouvelle pour la Chine que les États-Unis se coordonnent au mieux avec leurs alliés et leurs partenaires dans la région, mais se coordonnent également en interne, puisque c'était également une faiblesse de l'administration Trump d'avoir parfois un manque de coordination en interne entre les différentes agences gouvernementales, etc. Donc le message de l'administration Biden sur ce point-là, il est extrêmement clair. Deuxièmement, et au final que la troisième fois qu'un secrétaire d'État se rend en Asie pour sa première visite. C'était le cas de Dean Rusk en 61, il y avait à l'époque le sommet de l'OTAS à Bangkok en Thaïlande. Hillary Clinton, elle, y était allée en 2009 en se rendant également au Japon. Et à l'époque, son assistant sur les questions asiatiques était Kurt Campbell, qui est aujourd'hui le coordinateur au Conseil national de sécurité sur l'Indo-Pacifique. Et désormais Blinken. Et donc ça, évidemment, du point de vue des autorités chinoises, c'est entre guillemets une mauvaise nouvelle. Et sur le plan purement du process, le fait d'arriver après les autres, et là, pour le coup, qu'ils puissent rencontrer Blinken et Sullivan seulement en Alaska jeudi après leur voyage, encore une fois, à Tokyo et à Séoul, est évidemment pas une chose que la Chine apprécie dans le fond.
Oui, ceux qui vont rencontrer Anthony Blinken et Jake Sullivan, le conseiller à la sécurité nationale américaine, ce sont le responsable du parti et le ministre des Affaires étrangères, les deux seront là ?
Exactement, les deux seront là. Alors c'est un format extrêmement intéressant. D'habitude, on parle souvent du 2+2, où c'est la rencontre des ministres des affaires étrangères et de la défense. C'est ce qui a d'ailleurs eu lieu aujourd'hui même à Tokyo entre les États-Unis et le Japon. Et là, en quelque sorte, c'est un nouveau style de 2 plus 2, puisque c'est, vous l'avez dit, le secrétaire d'État et le conseiller national à la sécurité, pour une raison simple. C'est qu'aujourd'hui, en Chine, celui qui a le pouvoir de coordination sur les questions de politique étrangère, au-delà simplement de la diplomatie chinoise, c'est Yang Jiechi, qui est l'ancien ministre des Affaires étrangères, devenu le coordinateur de la politique étrangère au sein du parti. Et donc le fait pour les États-Unis d'envoyer un message fort, qui est de dire nous avons parfaitement conscience de la nature du système politique chinois et nous faisons en sorte de rencontrer les bonnes personnes et les personnes clés, ça c'est un message important. Et encore une fois, ce format 2 plus 2, entre guillemets, diplomatique est extrêmement intéressant.
Laurence Nardon, Joe Biden se montre donc ferme avec la Chine. Pourquoi ? Parce que c'est son analyse dans l'absolu, ou parce qu'il est un petit peu obligé, pour des raisons de politique intérieure, la Chine ayant été un enjeu important de la dernière campagne électorale, notamment pour les Républicains ?
Oui, alors ce qui est vraiment net, c'est qu'aujourd'hui, à Washington, il y a un consensus bipartisan sur le fait que la Chine est un acteur néfaste, un rival systémique, comme on l'a dit tout à l'heure, c'est le terme officiel. Ce constat, il est partagé à la fois par les Républicains et par les démocrates. Et en réalité, ce qui est vraiment intéressant, c'est qu'il correspond à ce changement de philosophie politique qu'on voit aujourd'hui à Washington, qu'on a vu déjà avec Trump et qu'on voit avec cette nouvelle administration Biden, et qui consiste à penser, à la différence de ce qu'on pensait depuis Reagan, que le commerce international, l'ouverture, le libre-échange, le commerce avec la Chine, etc., n'est pas forcément une bonne chose. Alors déjà sous Trump, l'administration disait que ça n'était pas une bonne chose parce que l'ouverture au commerce avec la Chine avait finalement nui aux classes ouvrières occidentales, enfin américaines dans le cas qui nous intéresse. Et donc ça, c'était l'électorat de Trump qui avait écouté vraiment, qui avait absolument adhéré à ce message. Ce message-là, il est partagé sur l'histoire du commerce et du libre-échange excessif. Il est partagé par la gauche du Parti démocrate, c'est-à-dire les partisans de Bernie Sanders ou d'Elizabeth Warren, qui eux aussi pensent qu'on en a trop fait avec le libre-échange. Donc et quand on dit libre-échange, on pense Chine en réalité. Et par ailleurs, pour les modérés du Parti démocrate, la Chine est également un acteur nuisible à cause de son bilan en termes de droits de l'homme. Et donc, l'opposition à la Chine que Biden manifeste aujourd'hui et qui est vraiment dans la continuité de l'administration Trump, je pense qu'on peut dire elle répond à l'ensemble des préoccupations des Américains aujourd'hui.
Pierre Grosser, est-ce que justement le fait qu'il y a encore des relations et même ça n'a pas vraiment été réduit, des relations économiques très importantes. La Chine, c'est l'atelier du monde et donc des États-Unis. Est-ce que ça, c'est peut-être une faiblesse dans la position de fermeté américaine ?
Oui, je crois qu'il faut faire très attention entre une partie du discours d'ordre un peu géopolitique, c'est-à-dire qu'on est maintenant dans un monde de rivalité entre grandes puissances, que le défi de l'avenir, c'est la Chine, etc., etc. Et puis, il y a un certain nombre de réalités très, très concrètes, c'est-à-dire que le déficit commercial des Américains avec la Chine continue de se creuser, que des investissements et des placements américains et des grandes entreprises américaines, notamment financières en Chine, sont de plus en plus présentes. Et donc, on est très, 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 très loin du découplage. D'ailleurs, les Américains la rencontrent sont en ce moment au Japon et le Japon aussi a parlé de découplage. On a poussé un peu au découplage, mais il se fait pas. C'est ça tout le problème de toute façon, cette relation avec la Chine, qui a rien à voir avec, enfin, en tout cas, qui est très, très différente de ce qui était la guerre froide avec l'Union soviétique. C'est qu'on a un géant économique qui est très important, pas seulement comme atelier du monde, il est de moins en moins d'ailleurs atelier du monde, mais je veux dire pratiquement tous les pays du monde, il y a pratiquement 70 pays du monde dont le premier partenaire commercial c'est la Chine. On n'avait évidemment pas du tout ça avec l'Union soviétique. Donc je crois que c'est un jeu extrêmement complexe et qu'il faut vraiment différencier un discours qui peut être ferme, tout un tas en partie pour la politique intérieure ou pour aussi se rabibocher avec certains alliés, et une réalité qui est à mon avis très complexe pour les Américains qui savent pas comment, à mon avis, aborder la question chinoise.
Antoine Bondaz, est-ce que les autorités chinoises ont conscience de cette position de force quelque part sur le plan économique pour ce qu'ils représentent dans l'économie américaine ?
Alors, je ne sais pas s'ils sont en position de force. Les autorités chinoises, tout comme les autorités américaines, et Pierre Grosser le rappelait parfaitement, ont bien conscience qu'il y a une situation d'interdépendance dans de nombreux domaines, qu'il y a de fait une symbiose sur de grands enjeux économiques, mais même au-delà, et donc il ne peut pas y avoir de découplage à court terme, même si encore une fois, à très long terme, les choses peuvent se discuter, même si encore une fois, les indices pour l'instant sont extrêmement limités. Donc, du point de vue des autorités chinoises, elles considèrent que les critiques américaines, entre guillemets, elles vont aller jusqu'à certains points, mais que les Américains ne vont pas prendre le risque, par exemple sur les questions économiques, de prendre des mesures extrêmement fortes. Cependant, les choses sont quand même un tout petit peu en train de changer. On voit que les Américains, notamment, sur de nombreuses questions économiques, sont peut-être tout aussi offensifs, entre guillemets, que l'administration Trump. Et un point qui est très intéressant et qui a enfin été fait aujourd'hui par ce fameux Kirk Campbell, donc du Conseil national de sécurité en charge de l'Indo-Pacifique, c'est qu'il a pris la défense ouvertement de l'Australie, qui fait l'objet de sanctions chinoises économiques depuis déjà plusieurs mois, que ce soit sur le charbon, que ce soit sur l'orge, sur le sucre, sur les homards, sur le vin évidemment, mais aussi par exemple sur le domaine de l'éducation. Et Kirk Campbell a annoncé quelque chose d'extrêmement fort, il a dit qu'il n'y aurait pas d'avancée sur la relation bilatérale avec la Chine, et notamment sur les questions économiques, tant qu'il n'y aura pas une levée des sanctions chinoises de fait sur l'Australie. Et là, on inclut encore plus de complexité, puisqu'on rattache la relation économique, pour le coup bilatérale, entre les États-Unis à la Chine, avec d'autres acteurs qui sont des alliés des États-Unis, mais qui sont sanctionnés par la Chine. Et ça rend les choses évidemment encore plus compliquées pour Pékin, mais aussi pour Washington.
Alors, Laurence Nardon, ça veut dire que la fameuse guerre commerciale, en plusieurs épisodes, qui avait accompagné le mandat de Donald Trump, bien qu'il soit parti, bien elle n'est pas terminée.
Non, la guerre commerciale va se poursuivre. L'administration Biden, comme l'a dit Antoine Bondaz, n'est pas du tout... n'est pas du tout décidé à aplanir les choses, parce qu'en fait, ils vont défendre, dans la continuité de Trump, les intérêts des États-Unis. Mais ce qui est intéressant, c'est effectivement... on a parlé du cas de l'Australie. On peut aussi parler des questions de technologie, et notamment de 5G. Parce qu'on savait que... pour faire un tableau plus large, si vous voulez, pendant des années, la Chine a cherché à obtenir les technologies développées en Occident par tout un tas de moyens plus ou moins légaux, des transferts forcés, éventuellement de l'espionnage, enfin tout a été possible. Ce qui s'est passé dans les dernières années, c'est que dans certains domaines de technologie, pas tous, mais dans certains, c'est la Chine qui est devenue le leader. Et c'est ce qu'on voit par exemple dans la 5G. Sous l'administration Trump, les États-Unis ont voulu, ont passé le mot d'ordre à leurs alliés de ne pas utiliser les produits 5G de la firme chinoise Huawei. On pouvait penser, alors les alliés des États-Unis s'y sont plus ou moins pliés, je ne rentre pas dans les détails, mais ceux qui s'attendaient à ce qu'avec l'administration Biden, ces limitations et ces sanctions sur Huawei soient levées, en sont pour leurs frais, parce qu'en réalité, l'administration Biden poursuit là aussi, sur la même ligne, de décourager les alliés se fournir auprès de Huawei et de l'interdire pour eux-mêmes. On est quand même dans une situation de guerre technologique entre la Chine et les États-Unis. C'est pas juste les tarifs douaniers, si vous voulez. Il y a des choses qui vont être très intéressantes et importantes pour l'avenir.
Pierre Grosser, on a parlé du Japon et de la Corée du Sud, qui sont les destinations des deux ministres actuellement en Asie, des deux ministres américains, mais et qui sont donc une des priorités contre l'expansionnisme chinois. Il y a aussi l'Australie, on vient d'en parler, et peut-être plus surprenant, l'Inde, c'est une stratégie indo-pacifique de containment, et j'emploie à dessein un mot qui date du XXe siècle et de la guerre froide.
Oui, alors il y a eu effectivement il y a quelques jours par vidéo une réunion de ce fameux Quad qui n'est pas du tout une alliance, parce que les Américains ont des alliances, par exemple avec le Japon, avec avec l'Australie, mais pas avec l'Inde. Il y a un rapprochement ancien avec l'Inde, hein, depuis la présidence de Bush, hein, donc ça fait quand même un moment, et qui s'est accentué depuis un moment. La grande question, c'est bien entendu de savoir jusqu'où ça peut aller, ce que veut faire l'Inde. Alors là, l'Inde, on a l'impression qu'elle bouge un peu vers les États-Unis parce qu'il y a eu des tensions frontalières assez fortes avec la Chine. Mais l'Inde a une tradition de ne pas s'aligner, même si elle s'est un peu alignée après sa défaite contre la Chine en 1962. Mais c'est un grand pays qui va pas suivre exactement ce que veulent faire les États-Unis. Donc pour le moment, ce quad a plutôt discuté finalement, enfin ce à quoi on est arrivé, plutôt des questions autour des vaccins, pour sans doute en partie contre la Chine. Mais l'Inde a tout un tas d'intérêts spécifiques. Ses relations avec l'Australie sont en train de se renforcer, mais elles sont encore assez loin d'être satisfaisantes. Elle a vraiment sa propre politique. Et donc, je crois que pour le moment, il ne faut pas encore espérer trop de ce quoi, même si, par exemple, on parle de l'ouvrir à la Corée du Sud, peut-être aux Britanniques, etc., etc. Tout ça, tout ce qui se passe en Indo-Pacifique pour le moment, ce n'est pas du tout ce qui se passait en Europe avec l'OTAN d'un côté et le pacte de Varsovie de l'autre. Hein, on en est vraiment très, très, très loin. Et je crois que de parler de grandes structures d'alliances fermes face à la Chine, ce n'est pas du tout la réalité. Là, le voyage, c'est avec deux alliés traditionnels, donc deux pays alliés traditionnels, le Japon et la Corée du Sud.
Antoine Bondaz, est-ce que la Chine, qui affirme sa puissance, hein, notamment en mer de Chine du Sud, en militarisant un certain nombre d'îlots, est-ce que la Chine cherche quand même, dans ce contexte, des alliés dans la région ? Est-ce qu'elle en a ?
Alors, c'est très compliqué pour la Chine, puisque officiellement, la Chine n'a pas d'alliés. Alors évidemment, il y a un problème pour la Chine, c'est qu'elle a une alliance de fait avec la Corée du Nord depuis 1961. Mais en tout cas, dans le discours officiel de la diplomatie chinoise, les éléments de langage, c'est-à-dire que la Chine n'a pas d'alliés, que la Chine justement se différencie de l'esprit et de la mentalité de guerre froide des États-Unis, et que la Chine, elle entretient des relations, parfois des coopérations de sécurité, mais en tout cas, pas de relations d'alliance. Alors, la réalité, c'est que la Chine, elle renforce sa coopération militaire avec de nombreux pays, par exemple le Pakistan, même si le Pakistan a une relation particulière, puisqu'il a à la fois une coopération de sécurité étroite avec la Chine, mais aussi avec les États-Unis. Et la Chine reste aujourd'hui une puissance relativement, entre guillemets, sur le plan militaire, purement militaire, relativement isolée. Et les Américains, au-delà d'avoir un budget militaire qui est trois fois plus important que la Chine, d'avoir une avance technologique sur le plan militaire qui reste considérable, a en plus ce fameux réseau d'alliances qui est une véritable source d'inquiétude pour la Chine. Et dans les publications chinoises, et ça depuis plus de 20 ans, et particulièrement depuis la fin de la guerre froide en fait, et du moment où la menace pour la Chine est passée d'une menace septentrionale continentale, grosso modo l'URSS, à une menace méridionale et maritime, grosso modo les États-Unis, les Chinois considèrent qu'il y a un encerclement stratégique autour de la Chine, que l'ensemble des bases américaines, notamment au Japon, en Corée du Sud, en Australie et dans l'océan Indien notamment, sont un problème, et que face à cet encerclement, la Chine doit non seulement renforcer ses capacités, passe notamment par ce que vous avez décrit, hein, au milieu des 2010, lorsque la Chine renforce, artificialise des îlots, les militarise, etc. Ça passe aussi par le développement considérable des capacités chinoises pour, encore une fois, lutter contre ce qui est perçu comme justement un encerclement américain extrêmement néfaste aux intérêts de la Chine.
Laurence Nardon, vous voulez ajouter quelque chose là-dessus ?
Oui, mais Antoine Bondaz l'a dit à la fin, cette espèce de complexe d'encerclement, quand on regarde une carte qui paraît très très claire de la part des Chinois, effectivement.
Oui. Antoine Bondaz, je vais juste ajouter quelque chose et je ne vous oublie pas, Pierre Grosser, je viens vers vous tout de suite après. Est-ce que le fait que l'administration Biden admette ne pas réussir à entrer en contact avec la Corée du Nord, ça participe de peut-être ce on ne parle pas de jeu d'alliance en ce qui concerne la Chine, mais enfin quand même.
Je ne sais pas, je pense que c'est plus compliqué que ça, avec la Corée du Nord a depuis des décennies toujours joué de l'opposition entre les grandes puissances régionales. Elle l'a parfaitement fait pendant la guerre froide entre la Chine et l'URSS. Il y a le fait de plus en plus aujourd'hui entre la Chine et les États-Unis. Juste très rapidement sur la Corée du Nord, principal problème, c'est qu'ils sont dans une position d'attente, un peu comme la Chine d'ailleurs sur certains sujets. Les Américains sont en train d'avoir un processus en interne, mais aussi avec leurs partenaires, pour redéfinir une politique sur la Corée du Nord. Et tant que les Américains n'auront pas donné d'indices sur ce qu'ils sont prêts à faire et ce qu'ils vont faire, la Corée du Nord n'a pas beaucoup d'intérêt à reprendre le dialogue avec les États-Unis, d'autant plus que sur le plan purement concret, les négociations sont compliquées par la pandémie de la Covid-19 qui limite considérablement les interactions physiques et la Corée du Nord ne va pas négocier sur Zoom.
Alors Pierre Grosser, vous avez déjà un petit peu répondu sur l'aspect, la comparaison avec la guerre froide, avec l'URSS au XXe siècle et entre cette nouvelle rivalité entre la Chine et les États-Unis. Cette éventuelle guerre froide, qui donc, si j'ai bien compris, si je vous suis bien, n'en est pas vraiment une, est-ce qu'elle peut devenir chaude? J'aimerais qu'on reparle de ces incidents en mer de Chine méridionale qui se multiplient. La Chine, elle montre ses muscles militairement.
Oui, je pense que c'est moins en mer de Chine du Sud que près de Taïwan qu'elle montre ses muscles pour le moment. Ce qu'il faut voir, c'est que depuis quelques années, on a tout un tas de scénarios de guerre possibles à partir d'incidents. Ça pouvait être sur la Corée du Nord, ça pouvait être sur le détroit de Taïwan, ça peut être sur la mer de Chine du Sud, et donc on a de plus en plus de livres, d'exercices, etc. Et tout est à peu près crédible, hein, parce que c'est tout le problème de l'évolution du monde, de l'histoire et des relations internationales, c'est que évidemment rien n'est totalement prévisible. Oui, il peut y avoir des incidents qui dérapent. D'un autre côté, je veux dire, entre Américains et Soviétiques, il y a eu des incidents et des crises qui n'ont pas dérapé. Il y a eu aussi historiquement des incidents entre les Américains et les Chinois régulièrement depuis les années 1990 notamment. Donc je crois que personne n'a intérêt de toute façon à un conflit ouvert pour le moment. Chacun aussi a réglé ses problèmes internes, hein, c'est-à-dire les questions de succession et de réorganisation pour la Chine. Aux États-Unis quand même, il faut imaginer que le président Biden sur son bureau a des tonnes de choses à régler. Et que, bien entendu, la Chine est un facteur aussi, par exemple, sur les questions d'environnement, sur les questions de technologie et de relance technologique, sur la relance économique. Évidemment, la Chine n'est pas loin parce que c'est aussi un client et un vendeur. Il ne faut pas imaginer que les deux chefs d'État sont totalement concentré sur ce que fait l'autre et en anticipant sur ce que fait l'autre comme s'il n'avait pas le reste du monde. On a parlé d'Europe, il y a la question russe et la très bonne entente entre la Chine et la Russie. Qu'est-ce que Biden va faire au Moyen-Orient? Il y a tout un débat, est-ce qu'on allège la jauge sur le Moyen-Orient ou pas? Donc la Chine est un élément parmi d'autres, mais c'est un facteur essentiel sur à peu près tous les sujets sur lequel Biden doit penser.
Laurence Nardon, il y a un allié, ou en tout cas un ami, qu'évoquait rapidement Pierre Grosser à l'instant, mais qui est clairement dans le viseur de la Chine, c'est l'île nationaliste de Taïwan. Comment le sujet Taïwan est abordé par l'administration Biden? Est-ce qu'on va reconnaître officiellement Taïwan, envoyer une représentation officielle, ou est-ce qu'on va rester dans le statu quo, dans cet entre-deux actuel?
Ben c'est un sujet absolument brûlant dans la relation US-Chine, c'est-à-dire qu'on voit bien que la Chine avance sur ce territoire, et je crois que la représentante de Taïwan à Washington a été invitée à la cérémonie d'investiture de Biden il y a quelques semaines. Donc ça, c'était un signe, parce que c'est pas toujours le cas. Je pense que pour les États-Unis aujourd'hui, enfin même depuis des années, la position à tenir sur Taïwan, mais aussi sur Hong Kong en réalité, est une question vraiment perdant-perdant, parce qu'ils ne peuvent pas lâcher prise, mais je pense que les Chinois de leur côté ne lâcheront pas prise non plus. Mais plus largement, tout ceci pose la question en réalité, parce qu'on a parlé beaucoup des États-Unis, mais de ce que veut faire la Chine dans le monde aujourd'hui. On voit bien qu'elle est expansionniste. Pendant des années, on a pensé que ce serait éventuel, que la Chine, qui croissait depuis son entrée dans l'OMC en 2001, allait se contenter d'être une puissance commerciale dans le monde, un peu comme la Grande-Bretagne au XIXe siècle. Et petit à petit, surtout avec l'arrivée au pouvoir de Xi Jinping, c'était en 2013, on se rend compte que cet immense pays a des visées expansionnistes, donc régionalement, Hong Kong, Taïwan, les îlots en mer de Chine du Sud, et puis peut-être aussi plus loin dans le monde, avec par exemple l'immense projet des routes de la soie, qui consiste à fabriquer des infrastructures maritimes et terrestres pour améliorer le transit des marchandises entre la Chine et l'Europe, donc le long des routes de la soie. On voit aussi que la Chine prête de l'argent à beaucoup, beaucoup de pays pauvres en Afrique, en Amérique latine, pour ensuite exercer une pression absolument immense sur ces pays. Tout ceci est extrêmement inquiétant pour l'autre grande puissance du moment, puisqu'on est quand même en train de se réorganiser aujourd'hui autour d'un duopole qui n'est plus le duopole américano-soviétique, mais le duopole sino-américain.
Antoine Bondaz, Taïwan, le moindre mouvement de soutien trop évident, c'est un casus belli pour la Chine ?
Bon, sur Taïwan, très clairement, il y a des tensions. La pression militaire, diplomatique, économique de la Chine ne cesse de s'accroître. Est-ce que les Américains vont revenir sur le statu quo, c'est-à-dire reconnaître ouvertement Taïwan comme un pays, c'est-à-dire en ayant des relations diplomatiques? C'est extrêmement peu probable. Et très honnêtement, ce n'est pas le débat aujourd'hui à Washington. Le débat aujourd'hui, c'est de savoir ce qu'on fait justement pour éviter que la Chine change de façon unilatérale et par la force le statu quo. Alors, ça passe évidemment par un renforcement de fait des liens avec Taïwan. Il y a énormément de coopération entre les États-Unis et Taïwan, tout comme il y en a entre l'immense majorité des pays européens et Taïwan. On a vu à la toute fin du mandat de Trump le fait que les interdictions de rencontres entre diplomates américains et taïwanais à l'étranger avaient été levées. On avait par exemple vu en France, dans une ville comme Marseille, où vous avez eu la consul générale américaine qui a rencontré le diplomate qui est directeur du bureau de Taipei à Aix-en-Provence. Et donc il y a de nombreux signaux qui sont envoyés par les États-Unis, qui sont extrêmement mal reçus par la Chine, pour dire nous n'oublions pas Taïwan. Il y a des garanties de sécurité, même s'il n'y a pas une alliance en tant que telle avec le Japon et la Corée du Sud, et nous nous opposons à un changement unilatéral du statu quo, et c'est une question aussi qui se pose de plus en plus au niveau de l'Union européenne et des différents pays européens, de savoir s'il ne peut pas faire un tout petit peu plus de bruit, encore une fois, non pas pour intervenir, non pas pour prendre position sur l'avenir, entre guillemets, que la société taïwanaise se choisira, mais tout simplement pour dire à la Chine, nous nous opposons à un changement unilatéral et par la force du statu quo.
Mais Pierre Grosser, on lit beaucoup que les deux camps se préparent, et vous l'avez dit, à l'éventualité d'un conflit armé, d'un incident qui pourrait dégénérer dans la zone. En préparant cette émission, je suis même tombé sur l'expression piège de Thucydide. Alors d'abord, vous allez nous expliquer ce que c'est, et ensuite nous dire si c'est un risque réel selon vous.
Alors, en peu de temps, c'est un peu compliqué. Hein. C'est en fait une façon par les Américains et surtout par un auteur qui s'appelle Graham Ellison, qui a l'habitude de reprendre les idées des autres, de dire que le gros problème dans l'histoire, toujours, c'est quand il y a une puissance montante et une puissance qui s'inquiète de cette montée et que ça crée des guerres. Et il fait la comparaison, évidemment, avec l'Antiquité, mais il fait la comparaison notamment avec la Première Guerre mondiale. C'est en fait une comparaison qui traîne depuis 30 ans, qui est fausse à 90%, parce que la Première Guerre mondiale n'est pas liée à la montée de l'Allemagne par rapport à l'Angleterre. Il y a tout un tas d'autres facteurs. Ce qui est important, c'est pas le contenu du livre, c'est justement qu'on soit fasciné par ça, et qu'on en discute aux États-Unis, on en discute de la Chine. D'une façon générale, il y a toujours des problèmes de puissance montante et de puissance qui semblent en difficulté. Parfois, ça mène des guerres, parfois, ça mène pas de guerre. C'est extrêmement... Enfin, on pourrait en parler en histoire pendant très longtemps. Mais, si vous voulez, la grande idée, c'est que les Américains, quand même, et c'est une espèce de prise de conscience, c'est qu'ils se sont concentrés sur les puissances trop faibles, c'est-à-dire des pays comme l'Afghanistan, les pays comme la Somalie, etc., pendant très longtemps, et sur le terrorisme. Et qu'à la faveur, finalement, de la guerre contre le terrorisme au Moyen-Orient, ils ont laissé la Chine devenir une grande puissance. Et donc, aujourd'hui, il y a une espèce de changement de braquet. Le problème n'est plus le terrorisme, le problème n'est pas le Moyen-Orient et le Grand Moyen-Orient, le problème, c'est la Chine. Mais personne ne sait exactement comment faire face à cela, et de dire qu'il y a un piège de Thucydide qui peut mener à la guerre, C'est évidemment très inquiétant. D'un autre côté, les États-Unis ont remplacé l'Angleterre comme grande puissance sans qu'il y ait de guerre.
Merci Pierre Grosser. Malheureusement, on arrive au bout de cette émission. On a presque plus de temps. Merci à nos autres interlocuteurs, Antoine Bonaz et Laurence Nardon. Merci à vous d'avoir participé à cette émission. Merci à toute l'équipe du débat du jour. Florence Ponce, Charles Barret, Jean-Philippe Thury. Prochain débat demain, même heure, même endroit. Dans quelques instants, l'info revient sur RFI. Bonjour chez vous.
Appel sur l'actualité, prenez la parole.